Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des hommes et des femmes politiques qui deviennent chroniqueurs dans les médias une fois qu'ils ne sont plus élus. Et en attendant, peut-être de le redevenir. Des porte-parole de partis qui viennent poser des questions au Premier ministre dans des conférences de presse parce qu'ils sont eux aussi chroniqueurs à la télévision. Des éditorialistes qui deviennent conseillers de candidats à la présidentielle ou même du président de la République. L'année, et en particulier la rentrée, a été marquée par des passages nombreux à travers une frontière qui semble de plus en plus poreuse entre politique et journalisme. Les politiques sont-ils des journalistes comme les autres? Et inversement, c'est la question du jour.
RFI.
Et pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir en studio ce soir deux invités. Françoise Degoy, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Vous avez été longtemps journaliste au service politique de la radio publique France Inter. Vous étiez en charge du suivi de la gauche avant de franchir le pas et de devenir conseillère de Ségolène Royal. Et ensuite de Guillaume Garot lorsqu'il était ministre de l'agroalimentaire. Vous êtes présidente de l'Agence Citoyenne, qui est une agence de communication. Et vous intervenez régulièrement dans des émissions de débat sur la chaîne de télévision LCI et sur la radio RTL. C'est dire que politique et médias sont des secteurs que vous connaissez bien. Et Alexis Lévrier, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes historien de la presse et des médias, maître de conférences, et vous êtes l'auteur du livre « Le contact et la distance » aux éditions Les Petits Matins, sous-titre « Le journalisme politique au risque de la connivence ». C'est un livre sur les rapports parfois plus qu'étroits entre politique et journaliste. Bienvenue à tous les deux. Je le disais un peu plus tôt, les passages de la politique aux médias ont rarement été aussi nombreux qu'en ce début d'année. Alexis Lévrier, alors je ne sais pas si vous avez fait des statistiques, mais est-ce que c'est votre impression également?
Oui, ce qu'on voit plus, me semble-t-il, par rapport au précédent quinquennat, c'est les passages de la politique vers les médias. Alors que lors du précédent quinquennat, on avait un autre phénomène, c'est-à-dire beaucoup de journalistes qui sont passés du côté du pouvoir. Là, le cas de Bruno Roger-Petit est un peu l'exception. Et à l'époque, on avait plutôt la question des couples, puisqu'il y avait quatre couples de ministres, plus le président lui-même qui était en couple avec une journaliste politique. Donc c'est toujours la même porosité, c'est toujours la même endogamie. Simplement, on a un nouveau phénomène, c'est-à-dire les politiques battues. Hein, il y a ça aussi, il y a le formidable renouvellement qu'on a vécu, qui fait que beaucoup de d'hommes et de femmes politiques cherchent à une place.
Et cherchent du travail, tout simplement.
Tout simplement.
Françoise Degoy, vous êtes aux premières loges pour observer ces mouvements. Est-ce que vous y attendiez avant cette rentrée?
Pas à ce point, mais c'est un mouvement qui est enclenché d'abord par Roselyne Bachelot. Il y a quelques années, Roselyne Bachelot a été très claire. Elle a dit, voilà, j'arrête la politique et je me lance dans les médias. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. En réalité, il y a une fascination mutuelle. Quand vous êtes journaliste politique, votre travail est... Entre parenthèses, je recommande l'excellent bouquin d'Alexis Lévrier. Merci. Il est très bon parce que moi j'aurais dit distance et proximité. Voilà, on est sur les mêmes antagonismes. Votre travail, c'est de couvrir le pouvoir, d'avoir cette distance, c'est-à-dire de comprendre tous les pièges de la séduction, du charisme, etc.
Tout en étant proche,
parce que si vous êtes loin, eh bien de toute façon, tout vous échappe. Pas et d'info. Si vous êtes prêt, vous pouvez vous brûler. Et donc il y a cette forme de fascination des journalistes politiques, malgré la distance qu'ils mettent pour leur sujet. Leur objet, et il y a la fascination des politiques pour la presse. Alors j'entends Emmanuel Macron, mais il est comme les copains, il continue à minuit à échanger des textos avec certains journalistes, mais officiellement il s'approche pas de la presse. Mais ça c'est faux. Il y a une obsession pour les politiques, c'est d'être beau dans le miroir des journalistes. Ils adorent les journalistes quand la une du Monde est bonne pour eux, ils les détestent quand il y a un adjectif qui leur plaît pas. Donc cette fascination mutuelle, elle essaie de trouver son équilibre et de temps en temps ça se déséquilibre.
Oui, c'est un rapport d'amour-haine un petit peu quand même.
Hein. Oui, d'amour-haine, oui, en tout cas de rapport de force, parce que le journalisme est un sport de combat, vous le savez tous.
Absolument.
Voilà, et la politique est un sport de combat.
Alors sur la radio RTL, vous travaillez ou vous allez travailler directement dans l'émission On refait le monde, avec l'ancienne ministre Aurélie Filippetti et l'ancien conseiller de François Hollande, Gaspard Ganzer. Est-ce qu'ils vous ont demandé des conseils?
Non, pas du tout. En plus, je les connais bien. Ils sont très bons. Ils n'ont pas besoin d'avoir mes conseils. Et puis, voilà, Gaspard Ganzer prend un chemin que j'aime bien. Moi, je l'ai pris aussi quand je suis sorti de ce... Bon, il n'a pas fait d'aller-retour, Gaspard. Il a fait l'ENA. Bon, c'est différent.
Ça peut venir. Hein. Il peut faire le retour aussi prochainement.
Oui, il peut faire le retour. Non, ils n'ont pas du tout demandé de conseils parce que de toute façon, c'est Jean-Yves Le Drian qui a refusé qu'il soit investi. C'est pas tout à fait la même histoire. Le gentil Jean-Yves Le Drian. Bon, Gaspard, on dit bien, ils n'ont pas besoin de mes conseils, ils sont très bons l'un et l'autre, ils ont les idées très claires surtout, c'est ça qui est intéressant.
Alors, on parlait de Roselyne Bachelot en préparant cette émission, j'ai lu une interview d'elle, ancienne ministre reconvertie chroniqueuse à la télévision, et elle disait que chroniqueur et homme ou femme politique, ce sont deux métiers différents, et que tout le monde n'a pas la capacité à faire les deux. Alexis Lévrier, est-ce que la séparation est vraiment si nette que ça?
Je pense qu'il y a quand même, c'est pas le même métier. Moi, j'ai bien aimé cette interview et j'aime bien la clarté avec laquelle elle a changé de métier. On a vu avec Laurence Haïm, qu'il faut rappeler qu'avant Bruno Roger Petit, il y a déjà une journaliste qui est passée aux côtés d'Emmanuel Macron pendant la campagne.
Elle était partie vers Emmanuel Macron en disant c'est le Obama français.
Oui.
Une fascination.
Mais elle parle plus comme ça maintenant.
Non, mais plus tellement, je crois.
Oui, je crois qu'elle a changé d'avis, elle aussi.
Oui, je crois qu'elle s'est brûlée les ailes à la personne. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris.
Et je pense qu'elle a fait elle a commis une transgression par rapport à ses propres principes, puisqu'à Society en novembre-décembre, donc juste avant de faire ce passage, elle avait dit que jamais elle passerait du côté du pouvoir politique, que pour elle c'était deux mondes complètement distincts, que dans le monde anglo-saxon elle appréciait le fait qu'il n'y ait pas de déjeuner, de dîner ensemble, et qu'elle ne supportait pas quand elle rentrait à Paris parce que les hommes politiques l'invitaient au restaurant. Bon. Et tout de suite après, elle passe du côté du pouvoir. Oh non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Françoise, de cette fascination réciproque, de cette tentation de devenir Alice qui passe de l'autre côté du miroir, en fait, tout bêtement. Et ça n'a pas fonctionné, ça prouve bien que ce n'est pas le même métier.
Il y a aussi, pour rebondir sur ce que dit Alexis, à la décharge de ces gens qui font les allers-retours, moi j'en fais partie, il y a aussi, pas le problème simplement de la fascination, il y a aussi le désir de faire. Quand vous êtes journaliste, vous êtes un commentateur. Vous commentez avec plus ou moins de talent, vous voyez avec plus ou moins de subtilité. C'est comme si vous regardiez un match, vous êtes sur le banc de touche et vous écrivez. Quand vous passez de l'autre côté du miroir, c'est que vous avez envie de faire aussi. Moi, c'est ce qui a motivé, par exemple, mon passage chez Ségolène Royal. J'adorais sa façon d'agir. Et j'avais envie, moi aussi, est-ce que moi je suis capable de faire au service de l'État? Il y a aussi cette chose-là qui existe quand même chez les gens qui font le passage.
Et l'analogie que vous employez là, avec les journalistes sportifs est assez intéressante parce qu'il y a eu, par le passé, de nombreux entraîneurs qui sont devenus consultants à la télévision notamment, en attendant de retrouver un job d'entraîneur. C'est arrivé souvent. Dans la même interview, Roselyne Bachelot disait qu'il y allait avoir des dégâts, que tout le monde ne réussirait pas. Elle ne le disait pas comme ça d'ailleurs. Elle disait qu'il va y avoir des morts. Françoise de Goy, c'est une conversion qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est quelque chose de différent quand même.
C'est quelque chose de différent, c'est une psyché différente. Quand vous êtes ministre, vous avez ce qu'on appelle l'imperium, c'est-à-dire que vous avez la décision qui est quand même assez minime. Hein. Vous avez la décision et vous avez un cabinet qui obéit. Ça, c'est le mouvement du cabinet politique. Vous avez la personnalité et tout le cabinet travaille pour cette personnalité. Quand vous êtes journaliste, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est le joyeux boxon, la conférence de rédaction, tout le monde a quelque chose à dire, et vous fonctionnez jamais en imperium. Chaque journaliste est très individualiste à son point de vue qu'il défend autour d'une salle d'une conférence de rédaction, d'une
Absolument.
Table de conférence.
Il faut quelqu'un qui tranche à la fin.
Et autour de la table d'un cabinet de ministres,
il y a des arguments.
Ça fonctionne pas comme ça. C'est le ministre qui décide. Donc il faut se départir, je crois, d'une certaine autorité, voire de l'autoritarisme. C'est pas facile.
Alors oui,
je pense qu'on
Alexis Lévrier.
On ne sait pas qui va mourir dans cette histoire, pour reprendre la métaphore de.
Il y a des gens qui vont se lasser. C'est sûr.
Voilà. C'est sûr qu'il y a des passages, mais je pense que pour l'assumer, pour que ça se passe bien, il faut peut-être faire ce qu'a fait Françoise ou ce que fait Roselyne Bachelot, savoir qu'on change de métier et qu'on devient quelqu'un d'autre. Ce qui me gêne un petit peu dans certains de ces passages, c'est qu'ils ne sont pas totalement assumés et qu'on a l'impression que c'est vraiment une pause entre deux mandats politiques, alors que ça suppose des compétences différentes. Et puis je crois d'avoir compris qu'on ne faisait plus la même chose, tout bêtement.
Alors justement, on ne va peut-être pas développer tous les cas particuliers, mais quand même, Bruno Roger Petit, dans l'autre sens, qui est passé de éditorialiste à conseiller du président Emmanuel Macron, finalement c'est assez classique, hein. Il y a eu plein d'exemples historiquement, Catherine Pégard avec Nicolas Sarkozy qui était journaliste au Point, des journalistes qui passent de l'autre côté, il y en a eu plein. Est-ce que c'est vraiment un voyage sans retour? Enfin, Françoise de Goy qui est ici en est la preuve, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi je pense que le cas de Françoise est vraiment intéressant pour ça, c'est-à-dire que s'il y a aller-retour, on en revient changé. J'ai vraiment ce sentiment-là, et que je pense que Françoise déjà avant, avec la qualité d'une, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, d'une éditorialiste, d'une chroniqueuse, de quelqu'un qui est du côté du journalisme d'opinion, à mon avis on peut pas revenir du côté du journalisme d'information. Ça me paraît très compliqué parce qu'on est marqué politiquement, tout simplement.
Françoise de Goy, vous verriez pas recourir les mythes?
Non, et puis je n'accepte pas non plus l'appellation de journaliste. Le journalisme, c'est quelque chose d'assez particulier. On traite les faits, même d'éditorialiste. C'est-à-dire qu'on a une carte de presse. Je redemanderai jamais une carte de presse.
Vous n'avez plus votre carte de presse, alors.
Puis je ne veux pas. Mmh. Moi, je suis ce qu'on appelle un opinion maker, comme il y en a. Il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Ça, c'est vraiment anglo-saxon. C'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine expérience dans certains domaines et qui vient exprimer cela à la télé ou à la radio. Je me considère plus du tout comme une éditorialiste et je suis très heureuse parce que je referai ce même chemin. J'ai appris beaucoup de choses dans le monde politique. Mais la politique, c'est bien. Il faut, parce que ma chance a été pour moi de pas vouloir être élue. Donc, ça enlève bien des angoisses et bien du désespoir. Et je trouve que cette addition-là, je me sens très bien dans ma nouvelle peau, tout à fait.
Alors, on va continuer un peu le tour des cas particuliers. Il y en a un qui nous intéresse au premier chef, qui nous a un peu interpellé, nous autres journalistes, la semaine dernière. Écoutez ça.
Bonjour, Raquel Garrido pour Les Terriens du Dimanche sur C8. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, j'ai lu sur le site d'Europe 1 cet été que, puisque ce ne sont pas les députés qui ont rédigé cet immense travail, il paraît que ça correspond à 200 pages du Code du Travail, que c'est une poignée de personnes en fait qui ont travaillé au cœur du mois d'août, une dizaine de personnes. Alors, est-ce que c'est vrai que ces 10 personnes ont écrit, ligne par ligne, article par article, la somme que vous venez de nous présenter? Qui sont-ils? On peut avoir leur parcours. On dit aussi que c'était directement sous la tutelle de l'Élysée. Est-ce que c'est vrai qu'elle a été le rôle directement de l'Élysée dans la rédaction, ligne par ligne, de ces ordonnances?
Vous écoutez le débat du jour sur RFI. Vous avez entendu donc Raquel Garrido. Les auditeurs de RFI la connaissent bien. Elle était souvent, elle est souvent invitée le matin chez Frédéric Rivière, comme invitée politique. Elle est toujours porte-parole de la France insoumise. Et là, donc, elle se retrouve la semaine dernière à la conférence de presse de présentation des ordonnances de réforme du Code du Travail par le Premier ministre. On va vous expliquer très rapidement une conférence de presse, en principe, surtout en état d'urgence et avec le plan Vigipirate. Il faut s'accréditer auprès de Matignon, donner son numéro de carte de presse pour pouvoir être autorisé à rentrer. Et donc là, Raquel Garrido, qui n'est pas journaliste, qui est avocate et qui est une chronique dans une émission de télévision du week-end, arrive à entrer dans cette conférence de presse. C'est qu'on l'a laissé faire, probablement, et pose une question au Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres quand même un petit peu bizarre, là, Alexis Lévrier?
Là, on est vraiment dans une confusion qui me perturbe. Elle dit elle-même que, elle est, d'ailleurs, on l'a entendu dans l'extrait, qu'elle arrive, se présente même pas comme membre de la France insoumise. Et je pense que il y a une volonté derrière ça. À mon avis, si on la laisse rentrer, comme vous dites, normalement, il faut c'est une conférence de presse, donc il faut une carte de presse qu'elle n'a pas, évidemment. C'est que je crois que chez Emmanuel Macron, comme chez Jean-Luc Mélenchon, il y a en ce moment la volonté de disqualifier les journalistes et de rabaisser la fonction journalistique. Donc finalement, d'ailleurs elle l'a dit, hein, après elle dit, il s'agit d'un happening du gouvernement où d'habitude il n'y a pas de contradiction. Donc elle y va pour finalement dégommer l'exercice lui-même, pour montrer que ça n'a pas de valeur.
Mais ça veut dire que les journalistes qui sont sur place n'apportent pas la contradiction, c'est ça qu'elle
veut dire? C'est ce qu'elle a dit. Hein.
Vous faites de la post-théorisation, mon cher Alexis, malgré votre grande intelligence. Je crois que c'est pas une boulette. Mais elle assume. Hein, Thierry Ardisson a embauché...
C'est le producteur de l'émission.
Raquel Garrido pour ça. Tout le monde sait que Raquel Garrido est porte-parole de la France insoumise. Elle assume, elle met pas son drapeau dans sa poche, elle dit pas je suis journaliste, elle dit je pose une question au monsieur le Premier ministre. Voilà, la bêtise, c'est à Matignon de l'avoir laissé rentrer. Mais après, on peut post-théoriser sur le plan machiavélique, macrono-mélenchonesque.
Est-ce que c'est pas quelque part choisir son opposition?
Oui, mais ça, c'est, vous savez, c'est ce qu'on explique maintenant sur choisir son opposition. Moi, je crois que Emmanuel Macron, s'il pouvait se passer d'avoir la France insoumise dans les pattes, il le ferait, parce que supposément cette opposition confortable ne le laisse pas respirer, le harcèle tous les jours, pratique l'art de la guerre, c'est-à-dire on fait bouger les feuilles, même si on est 20, on les fait bouger comme si on était 1000. Ce Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis montrent beaucoup de choses d'Emmanuel Macron, donc il change le climat sur Emmanuel Macron, donc je crois que il n'y a pas de confort de l'opposition de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est facile de le dire, mais j'y crois pas une minute.
C'est les meilleurs ennemis, quand même.
C'est vrai qu'en termes de façon de s'opposer, la France insoumise, avec ses quelques députés, fait le job à l'Assemblée.
Et ils sont en train de faire changer le climat dans l'opinion publique sur Emmanuel Macron. Si le climat dans l'opinion publique change par rapport à Emmanuel Macron, c'est que vous avez toujours la France insoumise, si c'est pas Mélenchon, c'est Adrien Quatennin, c'est Corbière, inlassablement, comme un rouleau compresseur qui ne laisse rien passer. Et c'est ce qui arrive.
Excusez-moi, ils ont accès aux médias en tant que responsable politique, et je suis d'accord avec vous, il y a des vrais talents qui émergent au sein de ce parti, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant au sein de La République En Marche. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est d'entretenir cette confusion des genres, et vraiment ce qui s'est passé dans cette conférence de presse me paraît assez grave, il faut le souligner.
Oui, est-ce que c'est court-circuiter la presse, remplacer la presse, l'idée. C'est l'idée.
Oui, mais le problème, c'est que la presse aussi, vous savez, moi j'en ai fait, vous aussi Guillaume,
absolument.
Vous connaissez parfaitement la machine. J'ai fait énormément de conférences de presse à Matignon, sous quelque que ce soit avec Fillon, avec Jospin. Vous savez, il y a quand même quelque chose de très compassé dans l'exercice. Il y a un décorum qui fait que parfois vous n'osez pas forcément poser toutes les questions. Quand vous avez en plus de ça un Premier ministre caractériel en face de vous, je ne citerai personne, ou un président de la République, c'est vachement dur de se faire ramasser, là, ça a l'air de rien. Moi, je me suis fait ramasser en Conseil européen, je peux vous dire que vous n'avez pas envie de recommencer.
C'est pas toujours drôle.
Je suis une grande gueule, mais je dois dire que... Donc, il y a quelque chose qui éteint, d'une certaine manière, le caractère acéré du questionnement journalistique. Garrido l'a réveillé, tant mieux, moi je dis.
Ouais, pourquoi pas, à la limite. Mais bon, c'est vrai que ça a posé beaucoup de questions. Il y a eu de nombreuses réactions de la part de journalistes politiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que, finalement, il n'y a pas aussi, quelque part, un petit réflexe corporatiste des journalistes, Alexis Débrier?
Ben, moi, je trouve que d'habitude, il n'existe pas, ce réflexe. Et les journalistes se laissent trop insulter. On a vécu une campagne présidentielle qui était caractérisée par un média bashing. On a vu même un candidat de droite modéré faire siffler les journalistes dans ses meetings. C'était quelque chose d'assez inédit et de, me semble-t-il, tout à fait dangereux pour notre démocratie.
Et la personne qui faisait siffler les journalistes dans ses meetings devient chroniqueur à la télévision. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a fait ça, un meeting à Poitiers.
Tout à fait. C'était très étonnant de la part de Raffarin, démocrate social.
C'est incroyable.
Vous avez oublié, vous avez oublié 2007, hein, quand même, je crois. Vous avez oublié Bayrou, à quel point Bayrou était parti dans cette tranche populiste-là. Le journaliste, c'est celui qu'on adore tabasser pendant une campagne présidentielle. J'aimerais que la profession soit corporative. Si ça ne l'est pas, elle est terriblement individualiste. Vous savez, la règle quand vous êtes journaliste politique, c'est de ne pas être fâché avec la personnalité politique. Donc, vous n'avez aucune solidarité parce qu'il est hors de question de prendre le risque de couper la source avec le ministre, a fortiori avec le président.
Alexis, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que c'est rassurant ce réflexe qui n'est pas corporatiste. C'est la défense d'un métier, ce n'est pas du corporatisme, c'est la défense d'une éthique. Et c'est quelque chose de très noble pour moi. Ce qui m'ennuie, c'est que ça n'avait pas lieu avant. On savait par exemple que Bruno Roger Petit était le seul journaliste politique présent à la Rotonde le soir du premier tour, pour ce qui était la première polémique.
Il a même été à l'étage.
Voilà. Donc il était déjà très
proche. À la table du président.
Or, on savait, il y avait eu un communiqué interne de la rédaction de Challenge en mars qui disait que le positionnement de l'hebdomadaire posait problème parce qu'il était beaucoup trop favorable à Macron. Et il citait notamment beaucoup d'articles de Bruno Roger Petit. Donc ça se savait tout ça. On connaissait sa proximité avec le couple Macron, qui est devenu ensuite le couple présidentiel. Donc moi, pour moi, le fait qu'il devienne porte-parole n'est pas gênant en soi. C'est l'ambiguïté qui a précédé qui pose problème.
Est-ce qu'au fond, le problème, c'est pas la proximité entre les deux mondes? Et le fait qu'il y ait des passages de l'un à l'autre comme ça n'en rajoute pas dans le côté décrié du monde politique et du monde journalistique. C'est vraiment deux milieux qui sont, quand on regarde tous les sondages, qui sont décriés par les Français.
Ils sont décriés, mais à la question « quel est votre rêve professionnel ?», c'est journaliste qui arrive
souvent,
en premier.
Souvent.
Donc c'est le paradoxe. Mmh. Moi, il me semble que il y a quelque chose, il faut rester sain dans ces relations. Vous savez, un homme ou une femme politique, ça fonctionne un peu, ça pratique, comment dirais-je, ça crée l'addiction et ça organise le manque. Ça, c'est ça, la fonction politique. Quand vous êtes un homme politique ou une femme politique de ce niveau-là, vous créez l'addiction. Et vous organisez le manque. Voilà. C'est comme ça que vous gérez vos relations avec et votre cabinet et la presse. Donc, il faut être plus malin, pratiquer le rapport de force, soi-même être capable d'organiser l'addiction et le manque. Et c'est à ce jeu-là que jouent les journalistes et les politiques depuis toujours. Donc, voilà, il n'y a rien de neuf pour moi sous le soleil, simplement on en parle maintenant.
Il faut dire aussi que cette porosité, elle est nécessaire. On le rappelait, le contact à distance, c'est une formule d'Hubert Boeuf-Méry à la base. Je n'ai fait que reprendre cette formule. Et il souligne bien par ce biais qu'un journaliste qui se prive du contact avec les politiques n'a pas d'information. Donc. Et les politiques ont besoin des journalistes pour relayer leur message, pour lui donner du sens. Donc la porosité, elle est inévitable et les passages d'un monde à l'autre sont également inévitables. Ils ont lieu partout. Simplement, il faut de la clarté et de la transparence.
Merci Alexis Lévrier. Merci Françoise de Goas. C'est déjà fini. C'était un plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau débat. Même heure, même endroit. Salut.